Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Trop noir, trop blanc est la traduction française de Born a Crime, le récit autobiographique dans lequel Trevor Noah revient sur son enfance et son adolescence en Afrique du Sud. Né à Johannesburg en 1984, de mère noire Xhosa et de père blanc suisse-allemand, il grandit alors que les lois de l'apartheid interdisent les relations interraciales. Sa naissance le place donc dans une situation juridiquement et socialement paradoxale, il existe, mais le système racial rend cette existence illégitime. Le livre ne propose pas une histoire générale de l'apartheid ni une biographie linéaire. Il rassemble des épisodes courts, souvent construits comme des scènes de stand-up, qui relient expérience familiale, langage, pauvreté, religion, violence et transformation politique du pays. Son objectif est double: montrer les effets concrets de la ségrégation sur une vie ordinaire et restituer la capacité de sa mère à inventer des marges de liberté. L'humour ne réduit pas la gravité des faits. Il rend perceptibles les contradictions et les absurdités du pouvoir racial. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une naissance qui révèle la logique administrative de l'apartheid. Le point de départ du livre est moins une formule provocatrice qu'un fait politique sous apartheid. La relation entre les parents de Trevor Noah était illégale. Le récit montre ainsi que la ségrégation ne se limitait pas à séparer des quartiers ou des écoles. Elle prétendait organiser les liens intimes, les familles et les catégories par lesquelles chacun pouvait être reconnu. Enfant métis, Noah ne correspond pas facilement aux cases imposées par le régime. Sa mère doit donc adapter ses comportements dans les lieux publics et limiter la visibilité de leurs relations afin de réduire les risques. Cette expérience permet de comprendre la dimension quotidienne du contrôle racial. Une loi abstraite influence les déplacements, les apparences, les fréquentations et même la possibilité pour un enfant de circuler avec ses parents. Noah évite toutefois de présenter son cas comme une exception purement individuelle. Sa position ambiguë éclaire le fonctionnement d'un système qui distribuait droits, sécurité et appartenance selon des classifications changeantes. Le livre insiste aussi sur la persistance de ces catégories après la fin formelle du régime. La transition démocratique transforme les institutions, mais elle ne fait pas disparaître instantanément les réflexes sociaux, les inégalités matérielles ni les lectures racialisées des corps. L'autobiographie devient ainsi une entrée concrète dans une histoire politique souvent décrite de façon trop institutionnelle. Deuxièmement, la mère de Trevor Noah comme figure de décision et de résistance quotidienne. La relation entre Trevor Noah et sa mère constitue le centre affectif et moral du récit. Patricia Nombuiselo Noah ne figure pas seulement comme une mère courageuse confrontée à des circonstances hostiles. Elle incarne une pratique active de la liberté dans un environnement qui cherche à restreindre ses choix. Elle travaille, élève son fils, prend des décisions religieuses et éducatives et refuse de laisser les définitions raciales du pouvoir déterminer entièrement son horizon. Le livre souligne que cette résistance passe rarement par des gestes héroïques au sens conventionnel. Elle se manifeste dans la volonté de faire découvrir des espaces sociaux différents à son enfant, de lui apprendre à penser par lui-même et de conserver une exigence morale malgré la précarité. Cette représentation évite une image passive des femmes noires sous apartheid. Noah montre au contraire les coûts personnels de cette autonomie, notamment dans un contexte de violence conjugale et de réponses institutionnelles insuffisantes. La place accordée à sa mère modifie aussi le sens de son parcours ultérieur, son humour. Sa curiosité linguistique et son indépendance ne sont pas présentées comme des qualités isolées. Ils sont liés à une éducation qui valorise la débrouillardise, la discussion et la responsabilité. Le livre rend donc hommage à une personne précise tout en examinant les contraintes qui pèsent sur les choix féminins et familiaux. Troisièmement, les langues comme moyen de franchir des frontières sociales instables. Un des apports les plus originaux du livre réside dans l'attention accordée aux langues. Trevor Noah explique que parler plusieurs langues sud-africaines lui permet de modifier la manière dont les autres le perçoivent et de créer rapidement une forme de proximité. Dans une société où la couleur de peau sert de classement immédiat, la langue introduit une information concurrente, elle peut signaler une origine partagée, une connaissance des codes locaux ou simplement un respect pour autrui. Cette observation ne signifie pas que le langage annule le racisme. Les hiérarchies matérielles et les violences de l'apartheid demeurent déterminantes. Mais le récit montre que les identités ne se réduisent jamais complètement aux catégories administratives. Les échanges linguistiques rendent visibles des alliances, des malentendus et des possibilités de circulation entre groupes. Noah analyse également le rôle de la traduction sociale selon le quartier, l'école ou la famille. Il faut comprendre quels mots, accents et références permettent de se faire accepter. Cette compétence devient une ressource de survie autant qu'un outil comique. Elle aide à expliquer son regard ultérieur de performeur, attentif aux manières de parler et au décalage culturel. Pour le lecteur, Ces passages nuancent toute lecture simpliste du métissage. Le sentiment d'appartenance se construit aussi par les pratiques, les relations et les codes appris. Pas seulement par la filiation ou la classification raciale. Quatrièmement, est l'humour comme méthode de récit face à la violence et à la pauvreté. La forme du livre reprend la vivacité de la scène comique chapitre bref, situation prise retournement et attention aux contradictions du quotidien. Ce choix est essentiel à son propos. Noah ne transforme pas la violence raciale, la pauvreté ou les violences domestiques en simples objets de divertissement. Il utilise plutôt l'humour pour révéler ce que les discours officiels rendent parfois abstrait l'incohérence d'une société qui réglemente l'intimité. La créativité nécessaire pour contourner les obstacles et la banalisation de dangers réels. Le rire produit souvent un effet de décalage. Le lecteur peut d'abord reconnaître une scène familiale ou scolaire, puis mesurer le cadre d'injustice qui la conditionne. Cette structure exige de tenir ensemble deux réalités des souvenirs peuvent être drôles et les conditions dans lesquelles ils surviennent peuvent rester profondément tragiques. Le style évite ainsi le ton uniquement plaintif ou documentaire, sans nier les conséquences des violences évoquées. Il restitue aussi la voix d'un adolescent observateur, parfois insolent, qui apprend à lire les rapports de force. Cette écriture explique pourquoi le livre dépasse le cadre du témoignage historique, la construction narrative donne une présence immédiate aux épisodes vécus. Elle permet également de comprendre l'humour de Noah comme une pratique intellectuelle, fondée sur l'observation des règles implicites, des absurdités sociales et des écarts entre les principes affichés et la réalité. En dernier lieu, grandir après la fin officielle de l'apartheid sans effacer les héritages. Le récit couvre une période où le démantèlement de l'apartheid et les débuts de la démocratie sud-africaine modifient profondément le cadre politique. Toutefois, Noah refuse toute vision automatique selon laquelle la disparition des anciennes lois aurait résolu les problèmes hérités du régime. Les quartiers restent inégalement dotés, les identités collectives demeurent traversées par la méfiance et les opportunités ne sont pas distribuées de manière égale. Son adolescence dans des environnements populaires, ses petits travaux et ses expériences de débrouillardise donnent une dimension économique à ce constat. Le livre rappelle que la liberté juridique est indispensable, mais qu'elle ne garantit pas à elle seule la sécurité, les revenus ou la reconnaissance sociale. Cette perspective est particulièrement utile parce qu'elle évite deux simplifications opposées, réduire toute la société sud-africaine à apartheid ou présenter la transition démocratique comme une rupture totale. Noah décrit plutôt un monde en mouvement dans lequel de nouvelles relations deviennent possibles, tandis que les conséquences de la ségrégation structurent encore le quotidien. Les épisodes familiaux et urbains complètent donc les repères historiques plus connus, comme la libération de Nelson Mandela. Ils montrent comment les grands changements politiques sont vécus à hauteur de foyers, de rues et d'écoles. Le lecteur comprend que la transition est un processus social long, inégal et parfois contradictoire plutôt qu'une conclusion nette. En conclusion, trop noir. Trop blanc conviendra particulièrement au lecteur qui cherche une approche incarnée de l'histoire récente de l'Afrique du Sud. Aux personnes intéressées par les récits de métissage et aux lecteurs de mémoires contemporains qui apprécient une voix comique sans légèreté factice. Il peut aussi servir de complément accessible à une lecture plus historique de l'apartheid au lieu de résumer seulement les lois et les dates. Il montre leurs effets sur les familles, les conversations, les déplacements et les possibilités de chacun. Son intérêt intellectuel tient à cette articulation entre expérience singulière et structure collective. Le livre invite à examiner comment des catégories raciales produites par le pouvoir continuent de façonner les perceptions après leur abolition officielle. Sa lecture apporte également un regard précis sur le rôle de la langue, de la famille et de la débrouillardise dans la construction sociale de l'identité. Par rapport à de nombreux témoignages sur apartheid, il se distingue par son rythme, sa forme fragmentée et son usage maîtrisé de humour. Trevor Noah ne se présente pas comme un commentateur extérieur de son pays, ni comme un héros exemple de contradiction. Il raconte une enfance marquée par la précarité, les conflits et les trouvailles ordinaires, avec une attention constante aux situations concrètes. La place centrale donnée à sa mère renforce encore cette singularité. Le livre est autant le portrait de son autonomie et de son influence qu'un récit de formation. Cette combinaison de mémoire familiale, analyse sociale et sens comique explique sa portée durable. Si vous souhaitez soutenir Trevor Noah, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.